French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Expatrié. Nom. Adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
Ça a été compliqué à gérer émotionnellement, de se dire je suis coincée, s'il se passe quoi que ce soit, comment je fais pour y aller, quoi. Ouais. J'avais surtout peur qu'il lui arrive quelque chose, quoi, que ce soit la fin, forcément, c'est un peu ce qu'on pense depuis. Donc c'est un peu délicat à gérer comme émotion. J'ai des nouvelles grâce à tous ceux qui sont en France, mon père, ma tante, mes cousines et tout, qui passent régulièrement voir ma mère, qui a des visites, tout ça. Donc j'ai des nouvelles grâce à ça, heureusement.
Partir vivre à l'étranger s'impose parfois à nous comme une évidence. Mais si évidence il y a, partir n'est jamais simple. Choisir, c'est renoncer, dit le dicton. Mais renoncer à quoi ? Myrti Courtenay est étudiante en fin d'études lorsque sa maman, alors âgée de 60 ans, est diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer. À l'époque, cette fille unique vit le début d'une grande histoire d'amour avec Derek, un bel Américain qui est aujourd'hui devenu son mari. Ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, Myrti vit à Houston, au Texas, avec son mari et ses deux petites filles. Elle vit loin de sa maman, qu'elle aime pourtant tendrement. Dans cet épisode, Myrti revient avec beaucoup de recul et de transparence sur les 10 dernières années de sa vie. Comment est-on l'enfant d'un parent malade ? Comment accepter de vivre sa vie, que la vie continue ? Et comment parvient-on à partir ? Elle nous raconte comment elle vit la distance, quand on ne peut plus s'appeler, échanger, s'entendre, se voir, se toucher, se sentir. Impactée par le travel ban, Myrti n'a pas vu sa maman depuis quelques années. Voici un épisode fort en émotion sur le lien parent-enfant. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je suis Anne-Fleur Andrely.
Aujourd'hui, c'est un peu un sujet douloureux parce qu'on va parler un peu de ma maman, notamment, qui est malade. Ma mère, c'est un peu celle qui est connue dans ma petite ville parce que elle apprend à conduire à toute la ville un petit peu. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est très joyeux, très jovial, très sociable, puis qui fait passer les autres avant sa vie. Et on va toujours dans l'entraide, aider les gens, c'est son dada, c'est ma mère et
Elle a quel âge aujourd'hui ?
Je sais pas. On est en quelle année ? 2021 ? Elle va avoir 70. Ouais, tu vois, je découvre qu'elle va avoir 70 ans. C'est fou. Moi, c'est Myrti, j'ai 31 ans, j'ai grandi dans un petit village de l'Ain. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est aux États-Unis avec Derek, donc du coup, on a eu l'épisode il y a quelques mois. Je suis maman de deux enfants, deux petites filles, Emma et Mélina. Alors, il y a Emma qui est née à Cannes, en France, qui a 5 ans, et il y a Mélina qui est née en Oklahoma et qui vient d'avoir 2 ans.
Alors, pour retracer donc un petit peu l'histoire de ton expatriation, il y a
tout pile 10 ans, en fait. Tu es en Bavière, 2011. Tu participes à un stage intensif dans un resto étoilé en Allemagne. C'est là que tu rencontres Derek. 2014, que tu retournes en France et que tu t'installes à Cannes avec ton amoureux. Est-ce que tu peux me raconter justement un peu à quoi ressemble votre vie à ce moment-là? On va commencer l'histoire à ce moment-là.
Derek, il est parti un peu avant moi à Cannes. Il est parti en 2013, en septembre 2013. Parce qu'il a trouvé du travail. Et moi, à ce moment-là, je comptais reprendre un peu mes études et j'avais trouvé une école vers Nice. Donc, on tapait un peu la Côte d'Azur. Du coup, lui, il a trouvé du travail assez rapidement parce qu'à ce moment-là, il est devenu de manière légale pour travailler.
Toi, tu faisais des études de quoi, toi, à ce moment-là ?
D'hôtellerie-restauration. Lui, il travaillait. Moi, je voulais poursuivre un peu mes études en me disant, voilà, c'est maintenant que je peux les faire. Après, ce sera trop tard, donc... Voilà, j'ai essayé de viser cette école. Et du coup, il est parti en septembre à Cannes tout seul parce que du coup, moi, j'étais un peu bloquée avec les soucis de santé de ma mère. J'ai laissé partir et il a fait à peu près 6 mois. Septembre 2013, voilà, jusqu'à mars 2014, on était à distance Cannes et moi, j'étais dans l'Ain avec ma maman.
Est-ce que tu veux bien revenir justement sur... la découverte de la maladie de ta maman ?
Je pense que c'était quand j'avais à peu près 18-19 ans, donc 2008-2009, où il y a eu un peu les premiers symptômes. Donc un peu, elle était plus fatiguée que d'habitude, elle avait un peu de mal à gérer ses papiers, ou elle passait trop de temps sur ses papiers, alors que d'habitude, elle ne mettait pas autant de temps à faire tout ça. Des petits signes comme ça, où elle n'avait plus trop envie de faire certaines choses et...
Mais tu étais des signes rétrospectivement, tu sais ce que c'est, mais tu savais pas des signes de quoi en fait c'était à l'époque.
C'était des petits trucs qui m'interpellaient, mais qui me faisaient pas m'inquiéter non plus. Tu vois. À ce moment-là, moi j'étais au lycée, je passais mon bac, tout ça, et en même temps je travaillais dans des EHPAD. J'étais allée dans l'hôpital de ma ville en fait où ils ont un EHPAD et j'avais travaillé tout l'été là-bas. Bon, déjà, j'ai bien aimé quand même y travailler et tout, même si j'avais un peu d'appréhension d'y aller parce que c'était, l'EHPAD, c'est quand même un monde assez particulier. Et en sortant de là-bas, même si j'ai apprécié l'expérience, je me suis dit, mais jamais de la vie, je mettrai mes parents là-bas s'il leur arrive une maladie ou quelque chose comme ça. Parce que je me rends bien compte que niveau personnel, y a pas assez de monde, ils ont pas assez de moyens en fait, tout simplement. Ils ont pas le temps de s'occuper de chaque personne. C'est quasiment à la chaîne, quoi.
Donc tu travailles dans cet EHPAD pendant 1 voire 2 étés. Tu commences tes études que tu fais donc dans l'hôtellerie après ton bac, pas loin de chez ta maman. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez vraiment sa maladie, c'est ça?
Je sais plus si c'est cette année-ci, ma première année de BTS, ou si c'était ma dernière année de bac. Mais c'est l'un des symptômes qui m'a un peu vraiment mis la puce à l'oreille en me disant il y a un truc qui est pas normal. C'était à ce moment-là, je travaillais justement en EHPAD pendant mes vacances d'hiver. D'habitude, le réveillon de Noël, ma mère, mon père, ils sont plus ensemble, mais on fait toujours Noël ensemble, etc. Ils sont toujours à fond les ballons derrière les cuisines, à préparer les choses et tout, donc... Et là, je suis arrivée et ma mère, elle n'était pas du tout active. Elle était dans son fauteuil, en train de faire la sieste. Et ça, moi, ça me choquait.
C'était pas du tout son habitude, quoi.
Pas du tout, quoi. Je suis avec ma mère, enfin, elle est toujours comme ça à fond. Et puis Noël, c'est important, donc voilà. Et là, je l'ai vue sur son fauteuil, en train de faire sa sieste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle avait pas envie, elle était pas là, quoi.
Quand est-ce que ta maman en fait découvre ce dont elle souffre? Ou quand est-ce que vous découvrez justement ce dont elle souffre?
Pendant l'année 2011, que vraiment là, je me suis dit il y a quelque chose qui est pas normal. Donc en fait 2011, ce qui s'est passé, c'est que avant mon stage en Allemagne, avant que je rencontre Derek, j'ai eu en fait une relation amoureuse qui s'est terminée, mais pas très très bien. Et c'est là que je me suis dit ma mère. Elle n'est pas là, quoi. Elle n'est pas là pour m'aider. Elle était complètement dépassée par la situation et presque absente, quoi. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et puis, il y a eu d'autres signes. Perdre ses clés. Elle a eu quoi d'autre? Toujours cette fatigue. Le fait d'être perdue dans ses papiers. Passer ses nuits jusqu'à 2h du matin à trier ses papiers sans finalement les trier. Enfin, brasser de l'air, quoi. Puis, ça a été ça. Ça a été... de plus retrouver sa voiture sur le parking. Donc de là, je me suis dit, faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, faut qu'elle voit quelqu'un. Et j'ai commencé en fait à en parler à ma tante, donc la sœur de ma maman. Et j'étais à ce moment-là en stage en Allemagne. Du coup, j'étais déjà partie. Et j'en ai parlé. Et je lui ai dit, ce serait bien qu'elle voit quelqu'un, qu'elle fasse des tests, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire qu'elle a commencé tout le processus pour se faire diagnostiquer, commencer à faire des tests basiques du style, tu vas chez le généraliste et puis on te demande de te rappeler trois mots. Et à la fin de la consultation, on te dit, alors, c'est quoi les trois mots que je vous ai dit en début de consultation? Et puis, juste ça, elle a pas su. Donc, du coup, ça a lancé le processus de faire des tests bien plus poussés.
Et qu'est-ce qu'on soupçonnait alors à l'époque?
Forcément ça, hein, c'était Alzheimer. Quoi.
Et du coup, quand vous avez eu le diagnostic de cette maladie, tu étais où? Tu vivais avec elle justement ou tu étais en Allemagne?
Ouais, j'étais toujours étudiante. En fait, j'étais toujours étudiante. À ce moment-là, Derek m'avait rejoint quand on a su le diagnostic. Donc, c'était en fait un an après, quoi. Un an après le début du processus de faire des tests.
Ça a duré
etc.
un an, le diagnostic?
Wow. Ouais, quasiment un an, deux mois après. Ça a été super long et puis moi de toute façon il m'a pas fallu un an pour comprendre qu'elle avait ça donc
ouais. Tu comprenais ce que ça pouvait impliquer justement sur le futur
je crois que j'ai pas voulu chercher à comprendre, j'ai pris ça comme c'est venu en fait, je me suis pas posé des questions sur le futur à ce moment-là et ouais enfin je me suis blindée direct dès que en fait il y a eu un test qui a été décisif. C'était quand je suis rentrée d'Allemagne, elle a fait un test avec une neuropsychologue. Mm-hmm. Et là, c'est vraiment le test poussé qu'on te fait. Savoir lire l'heure, faire des dessins, savoir compter. Toutes les questions, elles s'enchaînent. Et je me dis, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc là, c'était vraiment, pour moi, c'était sûr et certain qu'elle avait Alzheimer, ou apparemment, il y a pas mal de degrés d'Alzheimer. On disait, c'est peut-être pas forcément Alzheimer, c'est peut-être une sorte d'aphasie. Donc en gros, elle va perdre la parole, mais elle va se souvenir des choses. Il y a eu plein de petites possibilités, mais pour moi, c'était Alzheimer ou pas. Enfin, dans tous les cas, ouais, je sais qu'il y a quelque chose qui est pas normal.
D'accord.
Du coup, tu m'as demandé où j'étais quand j'ai appris le vrai diagnostic. Donc à ce moment-là, j'étais, c'était en 2011, c'était en mai ou juin 2011, et je m'apprêtais en fait à passer mes derniers examens de mon BTS. Quoi. Il me restait un oral et c'était le lendemain. Quoi. Et ce jour-là, ma mère, elle m'a appelée pour m'annoncer que tout simplement, le diagnostic qu'il était tombé, c'était Alzheimer.
C'est ta maman qui te l'a annoncé?
Ouais, elle me l'a annoncé par téléphone. Et en fait, ce qui était convenu avec ma tante, mes cousines, qui étaient dans la confidence de ça, parce que moi, j'étais en plein examen, donc je pense qu'elles m'ont un peu protégée sur ça. En fait, ma mère, ce qui était prévu, c'est qu'elle m'annonce ça après mes examens. Et là, je me suis dit, oui, elle a oublié. Donc, en fait, elle m'a annoncé ça la veille de mon dernier oral, donc... Moi, c'était le diagnostic qui était confirmé, mais c'était aussi la manière que ça a été fait et tout. Donc, je me suis dit, là, franchement, de toute façon, j'avais plus de doute, mais ça m'a un peu blessée quand même.
Oui, bien sûr.
À ce moment-là, quand elle apprend le diagnostic, elle vient juste d'avoir 60 ans, en fait.
À Derek, du coup, tu lui en as beaucoup parlé à ta maman depuis votre rencontre? Parce que ça fait quoi? Ça fait un an ou deux que vous êtes ensemble à ce moment-là?
Ça fait quelques mois qu'on vit ensemble. Mais ouais, de suite, je lui ai parlé que ma maman, il y avait quelque chose qui n'allait pas quand on était en Allemagne, que je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Puis que j'étais un peu tracassée avec ma famille à distance, à essayer de planifier, peut-être de lui faire passer des examens. Donc, il savait déjà tout ça. Et quand il est arrivé me rejoindre à Lyon, je crois que je lui ai dit tout de suite dans la voiture, tu sais, ma mère, je pense que c'est Alzheimer et j'en suis quasi certaine maintenant. Enfin, je le savais déjà, quoi, au fond de moi.
Et à ta maman, tu lui en as parlé de Derek avant tout ça?
Ouais, j'en avais parlé un petit peu. Je lui ai dit, tu sais, j'ai rencontré un petit Américain et puis je parle anglais et tout ça. Donc elle, tout ce qui était langue, elle était super attirée par les langues, l'espagnol, l'anglais, enfin, ça la faisait rêver, donc... Mais ouais, c'était déjà un peu trop tard, quoi.
Avant tout ça, vous aviez quel type de relation avec ta maman?
je dirais pas fusionnel, mais on était proches, mais on se prenait quand même beaucoup, beaucoup la tête. Mais on était quand même solidaires, quoi. On était toutes les deux à vivre toutes seules, donc on avait quand même un lien particulier, solidaire entre nous, même si des fois, ça pouvait clasher, mais bon, il y avait quand même de l'amour. Puis ma mère, c'était un peu... tout le monde la connaissait, quoi. Dans la petite ville où j'étais, c'était... Elle était monitrice d'auto-école, donc elle a fait passer le permis à tout le monde, quoi. Les mamans, les enfants, les tantes, les machins, tout le monde est passé, quoi. Donc, c'est vrai qu'elle était assez connue dans ma petite ville, puis par ses petites activités qu'elle faisait aussi, quoi.
Est-ce que tu te souviens justement de la rencontre entre Derek et ta maman ? Est-ce que lui ne parle pas français, si ?
Ouais, très peu, très peu. Quelques petits mots. Je me rappelle, déjà, il est arrivé. Les symptômes de ma mère, ils étaient quand même assez prononcés. Je me rappelle que, par exemple, dès que je rentrais les week-ends de mes études, enfin, je rentrais tous les week-ends exprès parce que je voyais bien qu'elle avait de plus en plus de mal à se gérer elle-même, ne serait-ce que pour cuisiner et pour gérer son frigo. Tous les week-ends, je rentrais et je jetais plein de nourriture qui était plus bonne. Enfin voilà, il y avait du grand laisser-aller. C'était pas du tout ma mère, quoi. Ma mère, elle était très rigoureuse, très organisée. Et elle a rencontré Derek à ce moment-là, quand ça commençait déjà à pas aller trop bien, où elle était plus trop là, quoi. Ouais, ça a été bien, mais je pense qu'elle a pas réalisé qui c'était, d'où il venait, tout ça, quoi.
Toi, à ce moment-là, donc voilà, tu es en France, vous partez vivre à Cannes, peu de temps après tout ça, puis ta maman devient grand-mère, puisque c'est là que Emma a vu le jour.
Ouais.
Est-ce que elle réalise, est-ce que vous réalisez justement que vous avez une petite famille franco-américaine ? Comment ça se passe avec ta maman à ce moment-là ?
Malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est trop tard, quoi. En fait, quand je tombe enceinte, c'est déjà trop tard. Pour tout dire, on a un peu rushé la situation d'être parent. Moi, personnellement, j'ai un peu poussé les choses pour que ce soit pas trop tard et puis pour qu'elle puisse avoir ne serait-ce qu'une seconde où elle réalise qu'elle est grand-mère et tout ça, quoi. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu, quoi. Ça allait beaucoup plus vite que j'aurais imaginé. Fin de l'année 2014, on est obligé de l'hospitaliser, enfin de la faire prendre en charge totalement, parce qu'elle est plus capable de se gérer toute seule, quoi. Puis moi, j'ai passé déjà 6 mois à distance avec Derek pour pouvoir m'occuper d'elle. Et après, on a trouvé, on a essayé plein de solutions pour la garder le plus longtemps à la maison, mais au bout d'un moment, on peut plus, il faut quelqu'un H24 avec elle, donc, que ce soit ses frères et sœurs, que ce soit moi, on a tous un peu notre vie et, c'est un peu compliqué.
C'est très lourd à porter.
Puis c'est hyper lourd, c'est ça. Donc, on fait le choix de la placer dans un EHPAD. Et ce qui a été le plus dur, du coup, pour moi dans cette histoire, c'est que, l'EHPAD dans lequel elle va, c'est, en fait, le même où je travaillais et pour lequel je te disais que j'ai bien aimé y travailler, mais je me suis rendu compte de plein de choses et j'avais dit en sortant à mes parents que jamais je les mettrais là-dedans, quoi qu'il arrive, quoi. Sauf que j'avais pas pensé que ça arriverait 2 ans plus tard avec ma mère et que à cet âge-là, j'étais en pleine étude, plein dans mes études et donc voilà, il n'y avait pas d'autre choix que de malheureusement la placer dans l'endroit où j'avais juré qu'elle n'irait jamais. C'est comme un échec pour moi à ce moment-là parce que tu promets quelque chose et au final, tu peux pas tenir ta promesse, t'as pas le choix. Il y a très peu de solutions qui s'offrent à nous à ce moment-là, donc on est obligé de choisir cette solution et ça fait mal, quoi. Ça fait mal de se dire, mais tu sais très bien ce qui l'attend là-bas et tu peux rien y faire, quoi. Voilà, c'est un sentiment de d'échec parce que je foire. Je foire ma mission. Et puis c'est aussi un sentiment où t'as pas le choix, donc tu peux rien y faire. Donc elle y rentre en décembre de l'année 2014. Puis là, un peu tout s'enchaîne. Derek me fait sa demande, tout ça. Donc, du coup, je me dis, je me dis, faut qu'on se dépêche. Je veux à tout prix que ma maman elle puisse connaître ça et tout, qu'elle soit grand-mère, qu'elle voit son petit enfant et tout. Donc, ouais, elle me fait sa demande et tout. Et donc, on va se marier aussi au Texas. Je le raconte dans l'autre épisode. Et en fait, pendant ce mariage, enfin, pendant ce mois de février, donc on est en février 2015, deux mois après l'avoir placé. Donc, je viens de me marier, en fait, et mon père, il me dit, écoute, je voulais pas te déranger parce que voilà, tu viens de te marier, machin, machin. Mais ta maman, ça va pas du tout, quoi. Et il m'a dit, en gros, dès que tu rentres de ton voyage du Texas, tu viens tout de suite à Belay, donc la ville où elle est, parce que franchement, ça va pas du tout. Et du coup, là, je découvre un peu ce qui s'est passé pendant mon mois d'absence au Texas. Enfin, il y a eu une grosse évolution. Je l'ai quittée au mois de décembre. Elle dansait, elle chantait. Là, on arrive encore à avoir des conversations. Quoi. Et là, je la découvre au mois de mars. C'est un légume. Elle ne parle plus, elle ne marche plus. Elle a la tête qui penche sur le côté. Et puis, ouais, c'est chaud. Quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Même si on sait que c'est la faute de personne, est-ce que toi, justement, t'as ce sentiment un peu de culpabilité? Tu te dis, mince, j'ai pas été là, ou comment tu vis tout ça?
C'est mal, et puis surtout, je suis en colère, parce que je me dis, il y a trois mois, elle était pas comme ça, c'est pas possible qu'en trois mois, quand même, ça évolue. Enfin, je vais pas remettre sur le dos des docteurs ce qui s'est passé. Enfin, voilà, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a eu des traitements qui étaient pas du tout appropriés à ma mère. Elle arrivait à l'hôpital, elle avait aucun traitement, quoi. Juste à part son traitement pour Alzheimer, elle était pas sous antidépresseurs, elle avait pas des antidouleurs. Et ouais. Puis, en fait, on l'a bourré de ça. Ça s'est aggravé en quelques semaines, quoi. Mmh. Elle est passée d'une petite mamie qui danse et tout à un légume, totalement. Donc, voilà, en trois mois, je me dis que c'est pas... je suis en colère et je trouve pas des réponses un peu à ce qui s'est passé. Et puis je me dis, ouais, j'étais pas là, quoi. Mmh. J'étais pas là, j'étais loin et tout. Donc.
Et donc là, tu découvres pas longtemps après ta grossesse?
C'est ça, en fait, je rentre à Cannes et le mois d'après, je vais voir ma mère tout de suite. Et puis le mois d'après, je tombe enceinte. Et c'est un peu... je suis contente, mais voilà, je me dis, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard de fou, quoi. Et puis, dans ma tête, là, à ce moment-là, on se dit, elle va... Enfin, en plus, elle a fait des complications derrière tout ça. Elle a fait une fausse route qui lui a fait faire une infection pulmonaire et tout. Donc, elle était en soins intensifs. On misait pas grand-chose sur la suite, quoi. Pour moi, elle allait partir, quoi. Je me dis, je suis enceinte et tout, elle va même pas voir ça. Puis dans tous les cas, c'est un légume, donc déçue que j'ai pas eu le temps, quoi. Dans ma tête, je me dis, mais pars maintenant, quoi. Au final, je suis même prête à la laisser partir. D'un côté, je suis déçue parce que Dieu va pas connaître sa petite fille. Mais d'un autre côté, je me dis, pars. Et puis je lui glisse dans l'oreille, écoute, ça va, tu peux y aller, quoi. C'est sûr.
Trop tard.
Je lui glisse ça dans l'oreille, mais ma mère, c'est une grosse battante. Et finalement, elle part pas, elle s'accroche et puis ça va aller mieux. Elle va même réapprendre à marcher. Elle va recommencer à parler. Parce qu'on a arrêté tous les traitements et tout. Et,
Ta petite fille voit le jour, Emma. Et vous, à ce moment-là, vous en êtes où de votre vie? Parce que, en fait, en 2017, vous partez tout court, vers les États-Unis. Comment est-ce que vous vous projetez vis-à-vis du futur à ce moment-là? Vous savez que vous allez peut-être chercher des opportunités à l'étranger? Comment ça se passe?
On a un petit peu des pistes. Parce qu'en fait, le patron pour lequel Derek travaille à Cannes, lui, il a pour projet de vendre son resto à un moment donné. Le resto de Cannes pour acheter un restaurant, ouvrir un autre restaurant, mais aux États-Unis. Où, on ne sait pas, mais c'est son projet et puis il a pour ambition de faire ça dans les prochaines années, quoi. Donc on est un peu sur les starting blocks en se disant, dès qu'il part, on le suit, quoi. En fait, c'était ça.
Vous voulez le suivre.
C'était ça. On le suit, peu importe où il va, on le suit et ça permet à Derek de pouvoir rentrer chez lui et d'avoir déjà un projet professionnel. Donc à ce moment-là, on est un peu, on se dit peut-être qu'on va partir, mais bon, il y a rien de sûr, quoi. Et Emma naît en décembre 2015.
Comment est-ce que ça se passe, ce départ? Et quand vous vous projetez justement dans ce futur, peut-être à l'étranger, vers les États-Unis avec le patron de Derek, j'imagine que tu penses aussi à ta maman. Comment, enfin, j'imagine que c'est pas une décision, c'est ni une réflexion facile et encore moins une décision facile à prendre. Comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est passé en plusieurs étapes, donc on a eu le temps d'appréhender un peu la chose. Et puis bah, déjà, moi, dès que j'ai rencontré Derek, dans ma tête, je savais qu'à un moment donné, il allait se passer qu'on allait rentrer aux États-Unis.
Ouais, tu le savais, d'accord.
Ouais, j'en étais sûre. Je me suis dit, il va pas rester toute sa vie en France et à un moment donné, il va vouloir rentrer. Et puis, bah, moi, par la même occasion, ça me dirait bien d'aller aux États-Unis, quoi, finalement, et puis de voir un peu comment ils vivent. Puis, donc, voilà, quoi. Donc, on a eu le temps de
se préparer.
Ouais, de nous préparer et puis de préparer un peu nos proches, même si je pense qu'ils ont été assez choqués quand finalement ça se fasse.
Ah ouais.
Parce que je pense qu'ils étaient plus, oui, bon, ils disent ça depuis des années, puis bon, bah, ils sont toujours là, quoi. Puis bah, un jour, bah, on part dans 6 mois. Donc voilà, ça a un peu choqué certaines personnes, mais bon.
Est-ce que tu as mis des choses en place particulières par rapport à ta relation avec ta maman, justement, au fait de partir bah, loin? Tu as le décalage horaire, tu as la distance, enfin, tu sais tous ces goûts de trucs.
Ouais, bah, du coup, entre la naissance d'Emma, où ma mère, elle commençait à aller mieux, et puis notre départ, il y a quand même une évolution aussi dans sa maladie. Ouais. Donc, elle a perdu la parole entre-temps. Enfin, tu vois, elle l'avait retrouvée, mais bon, ça n'a pas duré non plus longtemps. Mmh. Et puis, déjà, pour s'appeler, c'est compliqué. D'appeler quelqu'un qui te parle pas, quoi. Et bon, après, elle peut t'entendre, mais... Donc, déjà, ça...
Donc, tu savais avant de partir que ce serait pas facile de rester en contact régulier.
Ouais, c'était déjà beaucoup diminué au niveau du contact que je pouvais avoir avec elle, quoi, du fait qu'elle parlait plus.
Elle entend, elle comprend, si tu lui parles?
Si, elle avait encore des réactions et puis des contacts avec le regard, tu
D'accord.
vois. Donc, c'est un peu ce qui restait avec ça, quoi. Le contact, le fait d'entendre des chansons, tu voyais qu'elle elle se rappelait un petit peu, elle avait la petite mélodie qui venait, mais pour parler, c'était déjà compliqué. Donc, il y avait déjà un contact qui était un petit peu envolé, quoi.
Donc, du coup, vous annoncez votre départ 6 mois après. Ton mari, enfin, vous êtes marié, oui, vous êtes marié en 2015 en Oklahoma.
Non, au Texas.
Au Texas. Et là, vous partez en Oklahoma, merci. Donc,
c'est
vous
ça.
Partez à 3. Comment se passe, du coup, le début de cette nouvelle vie?
Ouais, ça se passe relativement bien. On découvre l'Oklahoma, donc grosse découverte. Je ne connaissais pas du tout. Mm-hmm. Entre le moment où on part et le moment où Derek il commence vraiment à travailler, on a quelques mois, donc ça nous fait quelques mois d'immersion gentille, quoi. Puis on a eu le temps de revoir toute sa famille aussi avant de pouvoir aller en Oklahoma. On a fait tout le Texas en revoyant tous ses proches, ils ont pu voir Emma aussi qu'ils connaissaient pas.
C'est précieux aussi ça quand on s'expatrie d'avoir une famille qui t'accueille là où tu viens.
C'est sûr. Surtout que là, on n'avait pas de maison, rien du tout. Donc, en fait, on a fait un petit camping chez les uns, chez les autres, tu vois. Donc, on a eu le temps de voir pas mal de gens et puis beaucoup de maisons.
Et toi, à l'époque, d'un point de vue immigration, t'étais sur quel visa?
Bah, en fait, on avait lancé les démarches avant de partir en France pour faire une demande de green
D'accord.
card, vu que j'étais mariée déjà et en plus sur le territoire américain. En fait, on est arrivé en Oklahoma et on a tout refait. On a refait une autre demande, quoi, parce que c'était compliqué le fait d'avoir changé de pays, enfin d'adresse et en plus de pays.
Ouais.
Donc, en fait, j'étais sous visa un peu touriste, quoi, au départ, je pense. Et après, on a fait la demande green card dans la foulée.
Et donc, du coup, la green card, pendant que tu l'attends, bah, tu ne peux pas sortir du pays?
C'est ça. C'est ce que j'avais pas non plus planifié, que ça allait se passer comme ça. C'est que, ouais, ça a mis presque 2 ans et demi avant que je puisse rentrer entre la green card qui met du temps à venir et le fait que tu ne puisses pas sortir du territoire. Enfin, tu peux sortir, mais
tu peux pas revenir.
Tu peux pas rentrer. Voilà, où ça te crée des soucis. Et plus ma deuxième grossesse, quoi, qui tombe à ce moment-là, quoi, la toute fin, avant que je reçoive ma green card. Donc ça fait que, ouais, il se passe 2 ans et demi sans que je puisse rentrer.
Et comment tu as vécu cette distance? Comment est-ce que tu as fait justement pour garder le contact avec ta maman à ce moment-là, avec le reste de ta famille?
Ça a été compliqué à gérer émotionnellement, de se dire je suis coincée, s'il se passe quoi que ce soit, comment je fais pour y aller, quoi. Ouais. J'avais surtout peur qu'il lui arrive quelque chose, quoi, que ce soit la fin. Forcément, c'est un peu ce qu'on pense depuis. Donc, ouais, c'est un peu délicat à gérer comme émotion. Bien sûr. J'ai des nouvelles grâce à tous ceux qui sont en France, mon père, ma tante, mes cousines et tout, qui passent régulièrement voir ma mère, qui a des visites, tout ça. Donc, j'ai des nouvelles grâce à ça, heureusement.
Justement, tes autres proches en France, ils ont compris ton départ? On t'a soutenu dans ton projet d'expatriation?
Dans la majorité, oui, on m'a soutenu. Parce que je pense que de toute façon, ils ont bien vu qu'avec Derek, c'était du sérieux. Mmh. Qu'en plus, on a eu Emma. Donc, ils se sont bien dit, c'est logique. Et Kalial, il habite là-bas aussi. Enfin, c'est son pays à lui. Donc, je pense qu'ils ont compris. Mmh. Hein. Et puis, je pense qu'ils sont aussi contents pour moi que je ne m'arrête pas. Et puis, ouais, que voilà, je fasse ma vie aussi. Ouais. Quoi, c'est important.
Bien sûr. Si on parlait un petit peu de ta vie aussi, là maintenant, aux États-Unis, tu me dis justement que tu as découvert donc ta seconde grossesse au moment où tu attendais ta green card aussi, ce qui fait que ça a mis un petit peu de temps et ça a rallongé le délai pendant lequel tu pouvais pas rentrer en France. Mm-hmm. Et tu m'as dit que tu avais une petite anecdote à partager autour de la découverte et de l'annonce de cette grossesse. Tu peux me raconter?
Ouais, c'était mignon. Donc ça faisait quelques temps qu'on espérait avoir un deuxième et tout. Et j'avais mis dans la confidence une de mes copines d'Oklahoma française. Et je sais qu'elle est douée pour les photos. Mm-hmm. Donc je lui avais dit, écoute, j'ai un petit truc. On aimerait bien avoir un petit deuxième. Mais moi, j'aimerais bien l'annoncer d'une certaine manière à Derek pour quand je le serai enceinte, quoi. L'idée, c'était qu'en fait, on fasse une séance photoshooting en famille et qu'avec un tableau, en fait, je lui annonce pendant le shooting, en fait, que j'étais enceinte, quoi. Les semaines passent et tout, et puis j'appelle toujours pas ma copine parce qu'elle ne fait rien, tu vois. Puis un jour, elle m'écrit, elle me dit alors, ça en est où? Moi, je suis toujours à fond et tout. Je dis, écoute, tu sais pas quoi, j'ai du retard et tout. Alors, écoute, demain ou après-demain, je fais un test et puis peut-être que ce sera bon, tu vois. Au moment où elle m'a écrit, j'étais déjà enceinte et tout. Donc, on a fait ça. Du coup, il a fallu attendre 2 jours avant qu'on puisse tous se rencontrer.
Ça doit être hyper dur de tenir le secret vis-à-vis de lui.
T'as pas idée, mon Dieu. Et en plus, j'avais un rendez-vous ce jour-là, enfin le lendemain, juste le jour où je l'ai annoncé, en fait, on avait un rendez-vous médical, genre pour ma green card, justement. C'est le fameux rendez-vous médical. Et là, je me dis, ils vont me trouver que je suis enceinte. Pas possible. Je me suis dit, il va me palper, il va sentir, j'en sais rien. Enfin, il va me trouver quelque chose ou un test urinaire, ça va pas louper. Mais non.
Et alors, il a pris ça comment?
Il s'y attendait pas du tout, mais je me suis dit, il va voir le panneau avant qu'on prenne les photos, c'est pas possible. Je lui ai dit, non, mais tu lis pas, t'inquiète pas, c'est ma copine, tu vois, elle écrit des petits mots, elle est un peu graphiste, elle veut juste faire ça sur sa photo, t'inquiète, tu verras après. Je me suis dit, il va pas m'écouter, il va regarder, il va se dire, mais attends, je fais pas une photo avec un truc, je sais même pas ce qui est écrit dessus. Mais non, elle a rien vu, rien du tout. Et jusqu'à ce qu'on lui découvre, on lui dévoile le tableau en pleine photoshoot. C'est une grosse surprise et une grosse émotion. C'était mignon. Mais c'était marrant. En plus, il y a des gens qui regardaient tout ça de loin et qui se disaient, oh là là, on va lui annoncer qu'il va être papa au mec.
Ils avaient tous compris sauf lui.
Ouais, ils avaient tous compris sauf lui. Et du coup, quand ils ont vu que Derek était enfin au courant, il y avait des klaxons de partout. Ouais, félicitations et tout. C'était chou.
Tu me disais justement, quand tu partageais un peu par écrit ce dont on allait parler, qu'une de tes plus grandes difficultés, c'était vraiment de laisser tes proches derrière toi dans toute cette expatriation, d'avoir été aussi obligée, on en a parlé, d'attendre si longtemps ta green card et donc de ne pas pouvoir rentrer en France. En plus, la crise actuelle fait que c'est un peu comme une deuxième green card là, que tu te fais, ma pauvre, sur les délais. Comment tu vis tout ça et t'en es où aujourd'hui là du coup?
C'est vrai qu'avec la situation actuelle, je me retape une autre green card dans la tête là un petit peu parce que tu peux pas trop rentrer. Après, il y a eu cette histoire de tu peux rentrer uniquement si quelqu'un décède dans ta famille, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas vécu très bien cette période, pour tout dire. C'est vrai que c'est délicat que ce soit ici, parce que moi, d'un côté, je peux pas rentrer, mais dans l'autre sens, ma mère, elle est aussi pénalisée dans le sens où elle a plus de visites. Et, enfin, tu vois, ça a été des mois sans visite, après on réouvre les visites, après on referme, on réouvre, on referme, enfin, tu vois. Du coup, je culpabilise de fou pour elle en ce moment, en me disant, elle est toute seule, quoi. Et moi, elle est pas la seule, mais voilà, ça me fait mal en plus de me dire que personne peut aller la voir. Ouais. Et en plus, ma mère, elle a eu le Covid l'automne dernier, donc ça aussi, ça a été assez stressant. Ouais, ouais. Mais bon, comme d'habitude, elle a survécu chose, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a rien qui peut l'atteindre. Donc tu vois, elle est encore là. Pas d'amélioration forcément, mais il n'y a pas de... Ça fait des années qu'elle est sur un niveau constant, quoi. Il n'y a pas de dégradation, voilà.
Tu penses pouvoir retourner la voir dans les mois qui viennent ou...
J'espère, après, j'espère.
Ouais.
Après, c'est aussi une question de budget et c'est vrai que ça aussi, le fait de rentrer en France, c'est quand même un coût financier. Je suis rentrée, c'était en 2019, je crois, quand t'as lancé le podcast d'ailleurs.
Est-ce que t'as une idée de à quoi ressemblerait ta vie si t'étais pas partie ?
Bonne question, hein, franchement. Dans ma tête, je pense que je serais partie quoi qu'il arrive, avec ou sans direct. Ça faisait déjà des années que je me disais, il faut que je parte dans un pays étranger. C'était vraiment...
Pourquoi ?
Quand je suis arrivée dans mon BTS d'hôtellerie-restauration, dans les premiers jours, on a eu, tu vois, des explications. Ils te présentent un peu ton cursus, quoi, comment ça va se passer. Et en fait, je me suis rendu compte que l'hôtellerie-restauration, tu peux trop voyager, en fait. Parce que moi, j'avais trop envie de partir un an quelque part, genre l'Australie, tu vois, c'était à la mode à l'époque, ça l'est toujours. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas combiner et les études et, tu vois, si ça peut me permettre de partir à l'étranger, tout de suite, ça m'a bien plu. Ouais.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais te donner ou peut-être à d'autres expats, en fait, justement, qui ont... soit ce besoin, soit cette opportunité d'aller faire une partie de leur vie ailleurs alors qu'ils ont, je sais pas, un être cher dans leur vie qui va pas pouvoir suivre, qui va pas pouvoir forcément voyager et qui ont du mal justement à franchir le pas. Ou... Est-ce que tu as, avec un peu de recul comme ça, tu as des conseils, des choses que tu aurais peut-être aimé entendre, que tu pourrais partager ?
Je pense que le voyage aussi, c'est une cure pour bien des maux. Je pense que quand ça va pas... Partir, c'est presque la meilleure chose à faire, ne serait-ce que pour se recentrer sur soi-même, que se connaître aussi. Parce que je pense qu'on en apprend plein sur soi-même quand on part à l'aventure. On n'a pas de but précis non plus, tu vois. Puis découvrir d'autres choses, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu hésitais ? Qu'est-ce qui t'a aidé justement à sauter le pas, en fait, de dire peut-être que je suis jeune, j'ai besoin de me construire, j'ai besoin de me concentrer aussi sur moi, ou enfin, je sais pas, comment t'es...
Moi, déjà, je voulais pas passer à côté de l'amour, en fait, que je vivais déjà avec Derek, donc déjà ça me maintenait à pas rester ancré juste autour de ma maman et à faire aussi des choix, quoi. Donc, à certains moments, j'ai fait le choix de prendre soin d'elle et de m'occuper d'elle, mais il y a un moment donné où je suis obligée de me penser à ce qui va se passer pour moi le futur et ce que j'ai aussi envie de faire maintenant. Et voilà, c'était aussi plein de possibilités, d'opportunités, donc voilà, fallait savoir les saisir ou pas. Et puis dans tous les cas, je me suis dit que ma mère, elle aurait pas voulu que je sois là, tu vois, à lui faire sa douche, à lui faire ci, enfin, elle aurait jamais voulu que je fasse ce que j'ai pu faire pour elle.
Elle avait un tempérament, elle profitait beaucoup de la vie, ta maman ?
Pas assez, je pense. Pas assez, hélas. Mais en fait, ma mère, elle vivait pour les autres, quoi. C'était celle qui s'occupait de tout le monde, qui gérait les problèmes de tout le monde. Du coup, elle s'est un peu oubliée. Enfin, voilà. Elle consacrait sa vie aux autres. Soit ses proches, ses amis, tout ça, sa fille, forcément. Donc voilà, je pense qu'elle voulait que je réalise mes rêves. Et puis je pense que si elle savait que je suis en train de vivre aux États-Unis, bah, elle serait trop contente, quoi. Elle serait trop fière, forcément, tu vois. Puis j'ai appris l'anglais en plus, alors ça.
Si tu penses, enfin, si elle comprenait là, ce que tu dis, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais un petit mot? Tu lui dirais quoi?
Bah, forcément que, bah, qu'elle me manque. Hein, dans tout, ce qui vient tout de suite, c'est qu'elle me manque. Tu vois, j'aimerais trop que des fois elle m'appelle ou. Tu vois, c'est con, mais.
C'est pas con du tout.
Toujours, non, mais tu vois, c'est. Toi, quand tu reçois un appel et tout, tu te dis, ah, peut-être que ça va s'écrire maman et tout, que ça va appeler, tu vois, mais. Mais non, mais. Donc, forcément, c'est un peu compliqué sur ça, mais elle me manquait tout. Mais après, j'aimerais certainement la remercier, tu vois, pour. Bah, faire en sorte que finalement, j'étais préparée à ce que j'allais plus ou moins vivre, même si j'avais pas prévu qu'elle allait être malade, mais au moins, elle m'avait préparée à la dureté de la vie, tu vois. Donc, pour ça, ouais, je suis reconnaissante de m'avoir donné un peu de force, hein, sa force à elle, quoi. Parce que c'est toujours le cas, quoi. Elle est toujours là. Elle est plus là, mais elle est toujours là. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué aussi.
Bah ouais, j'imagine. En tout cas, t'es hyper forte. Tu me touches beaucoup dans ton témoignage. Je suis désolée si je suis pas au taquet, mais je suis très touchée. Je pense que on s'identifie tous en fait un minimum, même si nos parents, nos proches ne vivent pas la même maladie. C'est on peut pas s'empêcher en fait de se poser la question qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on, enfin. Et en fait, il y a pas de, enfin voilà, c'est ce que tu nous dis quoi. Il y a pas de recette, il y a pas de mode d'emploi en fait. On aimerait bien qu'il y ait un mode d'emploi qui nous dise quoi faire, comment gérer, comment faire tout ça. Donc franchement, merci beaucoup de prendre le temps, même si je sais que ça remue des choses pas faciles, de nous raconter ton histoire.
Voilà, c'était nécessaire pour moi aussi d'en parler, enfin d'en parler, quoi, parce que c'est vrai que c'est un sujet, moi, j'en parle jamais. Quoi. Ouais.
Est-ce que tu as pensé à un moment, on sait, en tout cas beaucoup de gens savent que le coût de la santé est horriblement cher et horriblement élevé aux États-Unis, mais est-ce que vous avez imaginé peut-être justement de la rapatrier ici pour être proche de vous?
Ouais, au début, même avant de partir, on avait déjà essayé de chercher si c'était possible. Et d'un point de vue matériel et puis aussi financier, on a vite compris que ça pouvait pas le faire, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ouais, c'est vrai que c'est ça qui m'a aussi me frustre, parce que je me dis, si elle avait été malade un peu comme tous ces malades d'Alzheimer qui ont 80 ans, tu vois, ben moi j'aurais eu, je sais pas, 30, 40 ans, et enfin, j'avais pas 20 ans, quoi. Donc j'avais rien à 20 ans, donc je pouvais pas. Enfin, c'est frustrant, quoi. À 40 ans, j'aurais eu une vie, une maison, j'aurais pu l'accueillir. Alors que 20 ans, ben, j'avais pas tout ça, quoi. Et puis même quand on est parti, on a tout vendu, et encore, on n'avait pas grand-chose non plus. Tu vois, on est parti avec nos petites valises. Donc là, c'était compliqué pour nous. Puis je pense que ma famille nous aurait pas pu accepter de la laisser partir non plus. Ah ouais. Quoi.
Merci du fond du cœur à Myrtille pour ce moment passé avec nous. J'espère que cet épisode vous aura plu et que l'histoire de Myrtille vous aura aidé, vous aussi, à avancer éventuellement dans vos réflexions. Je tiens à remercier tout particulièrement la communauté de French Expat, car l'histoire de Myrtille vous a déjà été proposée il y a un peu plus d'un an, et à l'époque vous vous étiez mobilisés pour créer une cagnotte afin que Myrtille puisse rentrer en France, revoir sa maman. Myrtille a été énormément touchée, et maintenant que ses papiers sont en règle, elle n'a qu'une hâte, c'est de le faire ce voyage. Sans véritable transition, je vous propose d'écouter quelques indices à propos de l'épisode de la semaine prochaine.
En fait, c'était une ville qui était un peu en 2001, qui était quasiment vide. Il n'y avait plus personne. Pas de voiture dans les rues, quasiment. Il y avait quelques pick-up Toyota, mais c'était ceux des talibans. Et quand je suis arrivé, bah, c'est les gens revenaient. Des gens qui avaient fui le pays pendant les talibans, qui revenaient. Il y avait un exode rural aussi, des gens à la campagne qui n'avaient pas de boulot, qui allaient à Kaboul pour tenter leur chance. Donc tu avais un exode migratoire vers la capitale assez important, et la ville est passée de 1 million d'habitants à 5 millions d'habitants en 5 ans. Quoi. Donc, beaucoup de travaux dans tous les sens. Le vieux Kaboul, il y a des endroits qui sont assez rustiques, tu as des petits trucs, des maisons empissées. en terre crue, avec des petites échoppes, t'as des petits marchés, le marché aux oiseaux, où les gens vendent des oiseaux, c'est assez mignon.
Je crois que le plus fou de fou, c'était en rentrant dans l'aéroport, à l'entrée. Donc déjà, on est allé de l'hôtel à l'aéroport, escorté par les talibans, du coup. Et après, en fait, t'avais l'extérieur de l'aéroport qui était sécurisé par les talibans, le nouveau gouvernement, et l'intérieur qui était sécurisé par l'armée américaine. Et donc, en fait, tu vois les talibans et les Américains qui se sont quand même entretués pendant 20 ans, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre et qui travaillent ensemble. Ouais, c'est complètement fou. Complètement fou. Et nous, on est arrivés, on était juste derrière une voiture de talibans, et il y a trois soldats américains qui sont venus nous chercher. On était dans la foule avec tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas rentrer en voiture. Et ils sont venus nous chercher, donc ils sont littéralement passés à côté d'un soldat taliban. Enfin bref, c'était vraiment fou. Et quand on est rentré dans l'aéroport, et donc là il y avait que là, c'était les Américains qui géraient le checkpoint auquel on était. Je discutais avec les soldats qui ont fouillé nos valises pour le coup de fond en comble, et qui disaient que c'était complètement c'était complètement surréel, quoi. Et ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'en fait les talibans, c'est des ados, quoi. C'est des mecs, enfin pas tous, mais la plupart des gars qui étaient là, ils avaient je sais pas, ils devaient avoir 16, 18, 20, plus jeunes que moi, quoi. Et dans l'aéroport, c'était pareil, en fait. Les soldats américains, c'était aussi des mecs hyper jeunes, en fait. Ça m'a marqué, je me souviens me dire, mais c'est quand même bizarre, quoi. C'est en jeune, quoi. Enfin, c'est qui tous ces jeunes avec des flingues? Mais bon, on a eu de la chance, on a réussi à partir, et ça s'est bien passé, ouais.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une chose à dire, prenez soin de vous et de vos proches, savourez chaque instant. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.